Bienvenue à chacune et à chacun de vous dans ce temps de culte, au temple du foyer de l'âme, en compagnie de celles et ceux qui cherchent un sens, qui cherchent l'humanité, qui cherchent Dieu. Ce matin, le jour s'est levé sur cette quête, et ensemble nous nous disposons à l'écoute de l'Éternel notre Dieu, vérité qui éclaire, liberté qui délivre, bonté qui nous relève, fidélité qui nous assure de sa grâce et de sa paix, en Jésus le Christ vivant. Bienvenue à vous tous et toutes, et bienvenue particulièrement ce matin à la rabbin Florian Chinsky, qui nous fait l'amitié de venir déployer pour nous sa lecture d'un texte de la Bible. Alors, cher Florian, tu connais ce temple ? Puisqu'il a accueilli depuis plusieurs années les offices de Kippour, de communauté juive libérale de Paris, judaïsme en mouvement, et puis les accueillera encore, je l'espère bien. Ce temple où aussi s'était rassemblé un temps la communauté de la synagogue de la rue Moufle. Cela pour dire que les liens du foyer de l'âme et du judaïsme libéral sont anciens, et que les uns et les autres, nous nous attachons à une lecture éclairé et critique des Écritures, tout en relativisant les doctrines, les dogmes, les traditions et les rapports aux institutions. Oui, vraiment, bienvenue à toi, et merci de nous faire cet honneur et cette amitié de ta présence aujourd'hui. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés. Nous te prions de nous donner ton esprit, qu'il se saisisse de chacun de nous. Et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Que ton esprit bouscule notre façon de vivre et de penser. Et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Amen. Nous nous levons pour chanter le premier des spontanés du culte. Nous restons debout pour le temps de la louange. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des cœurs brisés, des cœurs hésitants, des cœurs battants. Dieu des chemins ouverts, des chemins escarpés et des routes à tracer. Dieu des bras ouverts, des mouchoirs serrés et des sourires offerts. Ton amour est mon appui. Toi, le Dieu des jours d'abandon, des jours de questions, des jours d'amitié. Dieu des douleurs éprouvées et des tendresses partagées. Dieu des patiences, des persévérances, des fidélités. Ton amour est mon appui. Toi qui appelles, qui m'appelles, qui nous appelles et nous restaures dans ta confiance, dans ton espérance et dans ton amour. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Amen. Et nous chanterons, pour poursuivre la louange, au psaume 81, les strophes 1, 2, 3, 4 et 7 du psaume 81. Place. Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies avec ce verset du livre du prophète Michée. On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon et ce que l'Éternel réclame de toi. Que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession, une prière inspirée du psaume 130. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes éternelles, qui subsistera? Mais près de toi, se trouve le pardon, afin que l'humain te respecte. J'espère l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Oui, près de lui est l'amour. C'est lui qui adoptera ses enfants. Il rassemblera son peuple, pardonnant toutes leurs fautes. Amen. Amis, je vous invite à vous lever pour entendre la parole du pardon. Je crois que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Oui, je crois que Dieu désire la vie, notre vie, et il nous la donne sans mesure. Rendons-lui grâce en chantant au psaume 103 les strophes 1, 4, 5 et 6.
Thank you.
Nous allons maintenant entendre la lecture du texte des Écritures que la rabbin Chinsky a choisi pour aujourd'hui et qu'elle va commenter pour nous. Vous avez le texte dans les Cantiques, c'est un texte assez long, le chapitre 14 du livre de Nombres, dans la traduction du rabbinat, une traduction qui ne retentit pas souvent entre ses murs.
Merci pour votre accueil. Merci pour cet espace qui, comme le disait la pasteur Dominique Hernandez, est un espace d'amitié. Et c'est sous l'angle de l'espace qui permet, qui est à cette distance, pour se tendre la main et pour se respecter et respecter l'autre dans la rencontre, que je voudrais aborder ce texte. Si j'en dis un petit mot avant, c'est parce que la façon de lire juive du texte peut peut-être sembler étrange. Et je tenais, avant de commencer, à préciser que le sacré, peut-être, c'est cet espace, justement, qui s'ouvre entre nous et qui permet plein de choses différentes. Et en principe, on ne lit pas un texte sans son interprétation, donc on en dira un petit mot, justement, après la lecture. Donc, est-ce que ce texte est un drame ou une comédie? Je ne sais pas, ce sera mon interprétation au fil de la lecture. Et on peut le lire en regardant chacun, chacune, ce qu'il éveille en nous et quel angle vous auriez peut-être, vous, choisi pour le traiter, parce qu'il y a effectivement énormément de choses. Mais moi, mon angle, ça va être celui de l'espace sacré qui naît, qui est accueilli par un lieu, par des cœurs ouverts, par des textes anciens. Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel sévit parmi eux et déjà il dévorait les dernières lignes du camp. Mais le peuple implora Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'affaissa. On nomma cet endroit Tabéra parce que le feu de l'Éternel y avait sévi parmi eux. Or le rama d'étrangers qui était parmi eux fut pris de convoitise. Et à leur tour, les enfants d'Israël se remirent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Il nous souvient du poisson que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres et des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant, nous sommes exténués. Nous manquons de tout, point d'autre perspective que la manne. » Or, la manne était comme de la graine de coriandre et son aspect comme l'aspect du bdélium. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Puis on l'écrasait sous la meule ou on la pilait au mortier. On la mettait cuire au pot et on en faisait des gâteaux. Elle avait alors un goût d'une pâtisserie à l'huile. Lorsque la rosée descendait sur le camp, la nuit, la manne y tombait avec elle. Bref. Moïse entendit le peuple gémir, groupé par famille, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut contrisé et il dit à l'Éternel « Pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ? Et m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple ? Moi qui l'ai enfanté ? Pour que tu me dises « Porte-le dans ton sein » comme le nourricier porte le nourrisson jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères. » Où trouverai-je de la chair pour tout ce peuple qui m'assaille de ses pleurs en disant « Donne-nous de la chair à manger, je ne puis moi seul porter tout ce peuple. C'est un fait trop pesant pour moi. Si tu me destines un tel sort, ah, je te prie, fais-moi plutôt mourir si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus la misère en perspective. » L'Éternel répondit à Moïse « Assemble-moi 70 personnes entre les anciens d'Israël que tu connaisses pour être des anciens du peuple et ses magistrats. Tu les amèneras devant la tente d'assignation et là ils se rangeront près de moi. C'est là que je viendrai te parler et je retirerai une partie de l'esprit qui est sur toi pour la faire reposer sur eux. Alors, ils porteront avec toi la charge du peuple et tu ne la porteras plus à toi seul. Quant à ce peuple, tu lui diras: tenez-vous prêts pour demain, vous mangerez de la chair, puisque vous avez sangloté aux oreilles de l'Éternel en disant: qui nous donnera de la viande à manger, nous étions plus heureux en Égypte. L'Éternel vous en donnera à manger de la viande. Ce n'est pas un jour ni deux que vous en mangerez, ce n'est pas 5 ni 10 jours, mais ni 20 jours, mais un mois entier, tellement qu'elle vous ressortira de la gorge et vous deviendra en horreur parce que vous avez outragé l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré dans vos lieux en disant: pourquoi sommes-nous sortis de l'Égypte? Moïse repartit. 600 000 voyageurs composent le peuple dont je fais partie. Et tu veux que je leur donne de la viande à manger pour un mois entier? Faudra-t-il leur tuer brebis et bœufs pour qu'ils en aient assez, leur amasser tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? Et l'Éternel dit à Moïse: est-ce que le bras de l'Éternel est trop court? Tu verras bientôt si ma parole s'accomplit devant toi ou non. Moïse se retira et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Puis, il réunit 70 hommes parmi les anciens du peuple et les rangea autour de la tente. L'Éternel descendit dans une nuée et lui parla. Et, détournant une partie de l'esprit qui l'animait, la reporta sur les 70 personnages, sur les anciens. Et aussitôt que l'esprit fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne le firent plus depuis. Deux de ces hommes étaient restés dans le camp, l'un nommé Eldad et le second Médad. L'esprit se posa également sur eux, car ils étaient sur la liste, mais ne s'étaient pas rendus à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse en disant: « Eldad et Médad prophétisent dans le camp !» Alors Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: « Mon maître, Moïse, empêche-les !» Moïse lui répondit: « Tu es bien zélé pour moi. Ah, plutôt ciel, que tout le peuple de Dieu se composa de prophètes, que l'Éternel fit reposer son esprit sur eux. » Et Moïse rentra dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. Cependant, un vent s'éleva de par l'Éternel, qui suscita des cailles du côté de la mer, et les abattit sur le camp dans un rayon d'une journée de part et d'autre autour du camp, à la hauteur de 2 coudées environ sur le sol. Le peuple s'occupa tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain, à ramasser les cailles. Celui qui en recueillit le moins en eut encore 10 homères. Et ils se mirent à les étaler autour du camp. La chair était encore entre leurs dents. Elle n'était pas encore consommée. Lorsque la colère de l'Éternel éclata contre le peuple, et le Seigneur frappa le peuple d'une mortalité très considérable, on donna à son nom le lieu de Kivrot Hatava, parce que c'est là qu'on ensevelit ce peuple pris de convoitise. De Kivrot Hatava, le peuple partit pour Hatzroth, et il s'arrêta à Hatzroth. Et donc, nous sommes au foyer de l'âme, qui me fait penser toujours à ce texte qu'on chante le vendredi soir, qui a été écrit au XVIe siècle, et qui dit: compagne de l'âme, toi qui es pure largesse, entraîne ta disciple vers ta volonté, pour que je cours comme une biche pour voir la beauté de ta force. Et cet élan, est-ce que nous arrivons à le développer et comment nous faisons en sorte qu'il existe et comment nous créons cet espace sacré de rencontre? L'âme, quelque chose qui inspire, et le foyer, quelque chose qui permet de se rassembler. Et cet espace, qui est un espace de spiritualité, de communication et d'action, et qui est donc à la fois un espace du cœur et un espace politique. Et quand on parle d'espace, je veux vous citer 2 visions de personnes qui ne se revendiquent pas de la pensée juive moderne, mais qui pour moi en font partie. une de Marshall Rosenberg. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, que vous connaissez peut-être. Et lui, il dit, ce que je recherche dans la vie, c'est la bienveillance, un échange avec les autres, motivé par un élan du cœur réciproque. Et il a mis en place ce qu'on appelle la communication non violente, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet justement de créer un espace de médiation qui accueille à la fois ce que je ressens et ce que ressent l'autre pour trouver une façon la plus appropriée, la plus joyeuse d'être heureux ensemble et donc de créer cet élan. Et l'autre personne que je veux citer à propos de l'espace, c'est Hannah Arendt, qui dit « Cet espace entre les hommes est l'espace vital de la liberté. La terreur et son cercle de fer éliminent non seulement l'espace vital de la liberté, mais la source même de cette liberté, celle qui réside dans la capacité qu'a chaque homme d'engendrer un nouveau commencement. » Et donc, comment est-ce que le texte qu'on a lu peut permettre de créer de l'espace et quel espace le judaïsme prend par rapport au texte ? Et on peut le faire à partir de l'intérieur du texte lui-même. Et regardez, on pourrait reprendre à chaque moment dans ce texte qu'est-ce qui est de l'ordre de l'expression du sentiment, comme on le souligne en communication non violente, d'identifier qu'est-ce qui est de l'ordre du sentiment qui doit s'exprimer pour qu'il y ait cet espace. Et puis, qu'est-ce qui est de l'ordre aussi de la stratégie de la raison, comment faire en sorte que tout se passe bien. Et donc, on a cet espace, vous l'avez noté, de discussion entre Dieu et Moïse, où ils expriment relativement... Alors, quand je dis Dieu, je ne sais pas, c'est le Dieu, le personnage divin tel qu'il est décrit dans la Bible, qui se met en colère comme on ne pense pas que... la force à laquelle on adresse nos cœurs puisse se mettre en colère de cette façon-là. Il y a une différenciation dans le judaïsme entre les deux. Vous avez vu qu'en lisant le texte, j'ai dit à un moment donné l'Éternel au lieu du Seigneur. Le Seigneur, c'est la traduction mauvaise de Adonai, qui voudrait dire en fait « mes seigneurs ». Donc ça pose plein de problèmes parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'on dirait « mes seigneurs » ? Mais de toute façon, ce n'est pas ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, c'est « Yud Heh Vav Heh ». Enfin, on prend beaucoup de recul par rapport à ça. Donc ce personnage de Dieu tel qu'on l'a décrit dans l'histoire, il faut aussi s'en distancier. C'est la vision, c'est une certaine projection d'une certaine vision de Dieu. Mais dans ce récit fondateur... C'est remarquable que Moïse et Dieu discutent, et vous avez vu avec quelle émotion, et en se renvoyant la balle, de quelle façon, et avec quel pathos à certains moments, et Moïse peut dire tranquillement « mais tue-moi plutôt que de me faire vivre ça ». Enfin, on voit ici des relations interhumaines extrêmement... On y reconnaît du vécu. Et donc, il y a cet espace d'exploration de où on en est, parce que c'est ça qu'on veut dire. Moïse, il ne demande pas vraiment à Dieu de le tuer. Mais il exprime le sentiment de son cœur en tant que sentiment, qu'il n'en peut plus. Et ça rejoint cette thématique de faire un espace. De faire un espace pour ce qu'on ressent au premier degré. Et là, j'en peux plus, et tue-moi tout de suite. Et l'espace, que ça n'envahisse pas tout, parce que ça, c'est ce que je ressens maintenant, mais ça n'empêche pas ensuite d'agir, et c'est ce qui se passe dans le texte. Et voilà, et donc c'est comme si, en communication non violente, peut-être, le personnage divin dont on a parlé accueille et propose des stratégies. Vous avez peut-être noté que parfois, hein, dans le récit de la Bible, Dieu s'énerve, mais ici, il va directement à la solution. Moïse pleure et gémit, et Dieu dit « Non, mais attends, on va faire ça, ça, ça. » Il va direct sur la stratégie pour résoudre le problème. Ça se discute, mais en tout cas, c'est une des choses qui est possible, et c'est cet exemple-là, parmi d'autres, que nous propose ici le texte. Et donc, on pourrait poser de nombreuses questions autour de ce texte, si on le prend au premier degré pour nourrir nos réflexions. Je ne vais pas les reprendre verset par verset, mais on peut dire « Et nous, quand est-ce qu'on gémit ?» Est-ce que nous aussi on gémit comme le peuple qui gémit, comme Moïse qui gémit? Et on voit aussi cette répercussion du gémissement. Si l'un gémit, est-ce que ça éveille le gémissement en l'autre, puis dans le troisième et la quatrième? Ou est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un peut prendre du recul, s'arrêter, écouter, accueillir mais sans s'identifier, avec un espace qui donne justement la possibilité de l'amitié et de la liberté? Pourquoi est-ce qu'on gémit? Et quelles sont les alternatives? Et pourquoi nos gémissements heurtent Dieu? C'est intéressant aussi que Dieu réagisse et soit troublé par ces gémissements. Et donc, puisque c'est le Dieu absolu et infini, je ne pense pas que ça le dérange qu'on gémisse de façon directe, j'en sais rien. Mais ici, en tout cas, on nous dit que le gémissement du peuple provoque le gémissement de Moïse et a un impact sur Dieu. Alors pour moi, ça pose la question de, quand nous on gémit, qu'est-ce qui est heurté? Quelle force, que ce soit Dieu ou Moïse, ou quelle que soit la façon dont on les nomme, quelles forces sont heurtées quand on gémit? Ce qui ne nous interdit pas de gémir, parce que si c'est ce qu'on ressent, il faut bien partir de là où on est, mais quelles forces sont heurtées par ça? Et comment ces forces se rééquilibrent? Parce que Dieu et Moïse discutent, et qu'il se passe plein de choses par la suite. Et quelles solutions trouver? Et comment avancer de cette façon? Et puis derrière, il y a aussi la question du leader, Moïse. Que ressent le leader quand il est seul, ou quand elle est seule? Et quand je parle de leader, je parle de chacun et chacune d'entre nous, parce que nous assumons à titre personnel le leadership sur nos vies. C'est nous qui dirigeons nos vies, et parfois dans la solitude. Que ressentons-nous dans les domaines où nous sommes seuls? Et voilà comment, de l'intérieur du texte, on peut dérouler un certain nombre de questions qui ouvrent autre chose et créent cet espace de réflexion avec une distance au texte. Je voudrais relever trois points sur lesquels la distance juive au texte crée également un espace de médiation. Donc, faut-il croire au texte? Faut-il coller au texte? Pas dans la vision juive, car où serait l'espace? Et cet espace est aussi nécessaire, cette prise de recul est nécessaire également au dialogue. Donc, au verset 15, et moi je vais le reprendre à partir de l'hébreu, au verset 15, alors je vais essayer de vous le redire comme en français. Oui, oui, sinon vous n'allez pas comprendre. Si tu me destines un tel sort, ah, je te prie, fais-moi plutôt mourir si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus cette misère en perspective. Que je n'ai plus cette misère en perspective. En hébreu, c'est pas du tout ça qui est écrit. C'est écrit que je ne vois pas mon malheur. D'accord ? Donc c'est pas cette misère en général, c'est tue-moi tout de suite et que je vois pas mon malheur. D'accord ? Mais est-ce que c'est logique que ce soit écrit comme ça ? Apparemment non, puisque Rashi, qui est un commentateur du XIIe siècle, nous dit le contraire. Il nous dit, il y aurait dû... Alors je vous montre juste le livre d'où je suis, même si c'est très loin, vous voyez pas. Mais ici, il y a la Torah écrite, la traduction... en araméen de Onkelos. Ici, ce que je vous lis, c'est Rashi qui est là. Et ça, c'est un commentaire qui explique Rashi, dont je ne pense pas que je le citerai, mais parfois il dit des choses amusantes. Il a une interprétation un peu personnelle de ce que dit Rashi, un petit peu plus. Il rend Rashi un peu plus classique parfois. Et donc je lis ici, et que je ne vois pas mon malheur, leur malheur, il aurait dû écrire, dit Rashi. Mais ça a été écrit sous forme de correction, et c'est l'une des corrections des sophrimes, des correcteurs du texte de la Torah, et c'est ainsi que ça a été écrit. Donc Rashi nous dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Rashi introduit, donc il est à Troyes au XIe siècle, Rashi. Et il est ultra reconnu, hein, c'est pas un juif libéral, enfin je veux dire, il n'y a pas le libéralisme, comme l'orthodoxie d'ailleurs, naissent au milieu du XIXe siècle. Donc, il n'y a pas la question, et c'est une autorité infiniment reconnue. Il nous dit, le texte a été corrigé. Donc, il y a cet espace qui est admis entre le texte et son interprétation. Et après, bien sûr, la question intéressante qui est pourquoi le texte a été corrigé et donc que je ne vois pas leur malheur, disent les commentateurs, ce serait trop violent et ils préfèrent dire que je ne vois pas mon malheur. Parce qu'il le prend sur lui, ce malheur, plutôt que de dire qu'eux vont souffrir, il dit c'est moi qui souffre. Mais je ne sais pas si je suis d'accord avec ça et on pourrait le dire aussi de façon différente. Mais je voulais vous montrer ici cette distanciation qui existe vis-à-vis du texte et qui est aussi interprétée. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, et on va le faire juste très rapidement, vous voyez au verset 25, en français. Et aussitôt que l'esprit se fut posé sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne le firent plus depuis. Faut pas exagérer quand même. Prophétise un jour, ok, mais après il faut pas. Ça c'est la traduction. Alors c'est une traduction reconnue, mais il ne pourrait pas y avoir de traduction normalement dans le judaïsme parce que ça gomme les interprétations. Alors, Rashi nous dit à ce sujet, il nous dit qu'il y a deux versions pour lire et ils ne prophétisèrent plus depuis. Il y a la version du Sifri qui est une compilation d'interprétations qui a été faite au IIIe siècle, qui dit c'est vrai, ils n'ont plus prophétisé depuis, mais il y a Ankelos, donc, dont je vous ai montré la traduction tout à l'heure, qui dit non, pas du tout, c'est pas qui. Alors, comment je traduirais en français ? Lo pasaku, ça veut dire. Ça peut être traduit des deux façons différentes, mais je vais avoir du mal à vous expliquer pourquoi, mais ça peut vouloir dire effectivement comme. Le Sifri qu'ils n'ont pas continué, mais ça veut dire selon Colos qu'ils n'ont pas arrêté. Donc en fait, ils ont continué. Et donc c'est très intéressant, parce que selon ton option, tu peux lire les deux, que la prophétie est partagée et qu'elle revient à tout le monde et qu'on a besoin que tout le monde l'interprète, ou alors que, non, pas du tout. Mais voyez, moi je trouve que ça tient vraiment pas la route, hein. Pourquoi transmettre la prophétie à 70 sages pendant un jour et après t'arrêtes ? Tu vois ce que je veux dire ? Soit c'est une bonne chose, tu continues, soit c'est pas une bonne chose et tu commences pas. Mais si t'as commencé, pourquoi tu arrêtes ? Mais donc, moi, ça me dit plutôt quelque chose sur ce que disait le Sifri au IIIe siècle, qu'il fallait mettre un peu d'ordre dans le peuple et que si chacun se mettait à dire n'importe quoi, ça aurait été compliqué peut-être à ce moment-là. Et que pour Ankelos, c'était quelque chose d'un petit peu différent. Et la dernière chose que je voulais vous faire remarquer, mais vous l'avez senti peut-être, c'est le passage où on dit « Ce peuple, est-ce que j'en ai été enceinte ?» C'est Moïse qui se plaint à Dieu, on l'a lu. « Est-ce que j'ai été enceinte ? Est-ce que c'est moi qui ai accouché ? Et est-ce que maintenant tu veux que je l'allaite comme une maman ?» C'est traduit de façon un petit peu plus neutre, c'est le verset 12. Comme le nourricier porte le nourrisson, d'accord ? Donc on est repassé au masculin, mais enfin le nourricier qui allaite le nourrisson, c'est un peu la nourricière quand même, globalement. Et donc il y a toute cette image ici de Moïse qui n'a pas peur de s'approprier si le féminin parce qu'il n'y a pas les limites qu'on projette sur le texte et qui referment. Et qui risque de clore l'espace devant nous. Et donc, c'est ce que. Alors, je sais que j'ai ouvert beaucoup de choses, mais on dit dans le judaïsme souvent que l'important, c'est la question. Qu'est-ce que c'est qu'un juif ? C'est quelqu'un qui répond à une question par une question. Deux juifs, trois opinions. Mais les avocats disent la même blague. Donc, deux avocats, trois opinions. Du coup, si c'est deux avocats juifs... Bref. Donc, j'ai conscience que j'ai ouvert plus de portes que je n'en ai fermées. Mais ce que je voulais montrer, justement, c'est cette question de l'espace, de l'ouverture, de ce qu'on peut créer entre nous. et qui peut nous mener justement à de l'action respectueuse comme ces 70 sages qui vont pouvoir reprendre une partie du leadership de Moïse pour le guider dans le désert. Et donc peut-être que je veux conclure en disant que tous les lieux que nous fréquentions, en souhaitant que tous les lieux que nous fréquentions soient des lieux d'espace, que à l'intérieur de nos cœurs ce soit un lieu d'espace d'accueil de nous-mêmes et des autres. Je dis ça, je fais la morale à personne, hein, je me le dis à moi-même, j'essaye d'y travailler, que à l'intérieur de nos cœurs y ait l'espace de nous accueillir, que les lieux que nous fréquentions soient des foyers pour nos âmes, et que ce foyer ici qui est le vôtre abrite beaucoup 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 d'âmes, ce qu'on sent très bien quand on vous entend chanter. Merci pour votre accueil.
Merci Floriane pour cette énergie et cette création d'espace, afin que nous demeurions dans de libres et joyeuses relations. Je vous invite à vous lever, c'est le moment de la confession de la foi. Et je vous invite à vous associer à la confession de foi de Charles Wagner. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie. Au fond des cœurs endurcis, la bonté fraternelle. Au fond des cœurs errants et pleins d'ombre, la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter, ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi, neuf, inédit, surprenant, dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ses profondeurs où l'humain tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur les routes inconnues, pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté n'existait pas avant même que retentissent ces mots « que la lumière soit ». Je crois qu'il demeurera à jamais. Et je l'appelle Christ. Amen. Voici le moment de partager quelques annonces. Nous aurons un peu de temps après le culte pour remercier la rabbin Chinsky et échanger avec elle, puisqu'un verre de l'amitié très simple sera servi dans la salle vitrée. Donc nous pourrons prendre un peu de temps pour habiter cet espace et le laisser croître et embellir nos existences. Comme c'est dimanche également, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, qui aura lieu également dimanche prochain, pour laquelle vous pouvez consulter la liste des produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. La liste est affichée en deux exemplaires dans l'entrée du temple. À ce sujet, je voudrais aussi relayer un appel que j'ai reçu de la part de la responsable de l'épicerie solidaire, qui a reçu pour vendredi 9 et samedi 10 prochain une invitation à venir faire une collecte dans un supermarché. Vous savez, comme cela se fait régulièrement, un supermarché a une petite surface qui est tout près du foyer de l'âme. Mais il se trouve que le 9 et le 10 juin, ce sont les journées de collecte sur la voie publique de la Croix-Rouge. Donc tous les bénévoles sont requis sur la voie publique. Et Pascal, la responsable de l'épicerie, cherche des personnes pour aller dans ce petit supermarché pour faire la collecte de produits alimentaires vendredi 9 et samedi 10. Alors, pas toute la journée, hein, mais donc si vous avez une disponibilité, n'hésitez pas, faites-m'en part à la fin du culte et puis je le relayerai auprès de Pascal qui donnera tous les renseignements nécessaires. Voilà, sachant qu'il s'agit strictement de la collecte en magasin, il n'y aura pas de transport à faire de ce qui est collecté, c'est prévu par ailleurs. Voilà, donc vendredi 9, samedi 10. Cet après-midi, à 17h30, ici, nous aurons le bonheur, et vraiment ce sera un bonheur, d'entendre la cantate BWV 176, dont les échos de la répétition m'ont déjà ébloui hier. Si cette cantate est appuyée sur le personnage de Nicodème et son dialogue avec Jésus. Donc c'est vraiment particulièrement une cantate passionnante. Et puis, le nom de Nicodème a plusieurs fois résonné ici. Donc aujourd'hui, à 17h30. La semaine prochaine, il est affiché dans l'entrée, je crois que Dominique l'a fait, un petit partage biblique qui aura lieu mardi 6 à 18h30 à l'Escale, qui est un lieu d'accueil. J'en avais parlé il y a quelque temps, il y a eu un article aussi dans l'Amitié, un lieu d'accueil ouvert à tous, au public, dans le 11e arrondissement. Et le pasteur Tadanon, qui est responsable de l'Escale, qui a deux lieux ouverts à Paris, m'a demandé d'assurer des partages bibliques. Et donc, mardi 6 à 18h30, ce sera sur le thème du deuil à partir du récit de Lazare, de la rencontre de Jésus avec les sœurs de Lazare, surtout. Ensuite, jeudi 8 à 12h30, la pause spirituelle, comme tous les jeudis dans le temple, pour ceux qui ont une heure pour se poser et se relier. Et puis à 19h30, ce sera la dernière étape d'un parcours qui avait été commencé au début de l'année scolaire, le parcours de découverte des théologiens protestants, qui a été conduit pendant un certain nombre de rencontres par le pasteur Gagnebin. Et ce sera donc la dernière rencontre jeudi 8 autour de la figure de John Cobb, un théologien américain. Et c'est le pasteur Jean-Marie de Bourconnais, directeur de réforme, qui assurera cette soirée. Les personnes qui ont suivi toute la série recevront automatiquement le lien, c'est en visioconférence exclusivement, recevront le lien automatiquement, j'ai toute leur adresse. Et puis si vous êtes intéressé, il faudra m'envoyer un mail et j'enverrai le lien mercredi, donc s'il vous plaît, avant mercredi. Vendredi 9 à 19h30, comme on est au mois de juin, les derniers de l'année. Et ce sera donc la dernière rencontre du groupe Théo et Psycho pour cette année, avec donc la lecture du livre d'Élian Cuvillier de Jean-Daniel Cos, Traversée du christianisme. On en est au chapitre 4. Merci Françoise. Dimanche prochain, le culte à 10h30 ici sera assuré par Hervé Oléon Perrin, puisque pour ma part j'irai, et c'est également pour la dernière fois, dans la paroisse de Levallois, dont je suis pasteur référent cette année de vacances pastorales. Mais la paroisse de Levallois se réjouit d'accueillir une pasteur l'été qui vient, là, le 1er juillet. Le culte donc sera suivi par le repas des JMJ, jeunes et moins jeunes, puisque c'est le deuxième dimanche du mois, et nous aurons la joie d'accueillir pour ce repas une responsable le Dorothy, oui, mais c'est quoi, c'est un café café collaboratif où il se passe plein de choses. Il a été présenté dans le numéro de l'Amitié. Et donc, une des responsables du Dorothy viendra échanger avec nous dimanche prochain. Donc, le repas des JMJ est donc ouvert à tous, comme son nom l'indique, jeunes et moins jeunes. Et vous pouvez apporter quelque chose à partager. Et puis, si vous n'apportez rien, c'est pas grave, on partage. Voilà. Donc après le culte, dimanche prochain. Je voudrais aussi signaler, pour que vous le notiez dès à présent, mais vous avez pu le lire dans le bulletin, que le dimanche suivant, le 18, ce sera un culte musical que nous préparons Fred et moi, donc un culte qui laissera une large place à la musique. Et le thème de ce culte, ce sera l'eau. Et c'est pourquoi ce n'est pas aujourd'hui, mais ce sera ce dimanche 18 que nous chanterons le cantique associé à la chorale d'aujourd'hui, parce qu'il y a un rapport avec l'eau. Mais vous verrez ça le 18. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Eh bien alors, c'est le moment de l'offrande et je vous invite à la liberté et à la joie. Et voilà, c'est l'esprit de l'offrande, la liberté et la joie. Et pendant cette offrande, je vous invite aussi à vous lever pour chanter le psaume 23. Et nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Notre Père, donne-nous de prendre notre part, d'habiter la destinée que tu donnes à chacun et d'être véritablement présent là où nous vivons, en témoin de ta grâce et de ta fidélité. Notre Père, donne-nous de prendre toute notre part dans ton œuvre, de devenir ce que tu espères de nous, de ne pas nous réfugier derrière le sentiment d'insuffisance et de ne pas brandir notre petitesse pour nous dérober à tes appels et à ceux de nos frères et sœurs. Notre Père, donne-nous de prendre seulement notre part, de ne pas présumer de nos forces, de ne pas piétiner l'espace dont les autres ont besoin pour grandir et pour vivre, et de nous ouvrir à l'altérité. Notre Père, donne-nous donne à chacun, à chacune, de naître à ce que chacun et chacune est pour toi. Et avec le Christ vivant, nous te prions en disant à voix haute ou dans le secret de notre cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Et juste un petit mot que j'aurais dû dire dans les annonces au sujet du culte d'aujourd'hui. Si vous entendez des réclamations, c'est normal, nous avons eu un petit souci technique et l'ensemble du culte n'a pas été retransmis et ne se retrouvera donc pas sur le site de la paroisse cette fois-ci. L'audio, oui, et voilà, mais pas la vidéo. Notre cheminement est toujours porté par une promesse. Dans l'écoute de l'appel divin, nous découvrons un sens à nos vies et au monde. Et cette écoute se fait au travers des paroles humaines qui disent un peu qui est Dieu, et dans toutes les Écritures, qui disent l'amour de Dieu pour notre monde. Elle se fait dans les rencontres des visages d'hommes et de femmes en qui nous reconnaissons un frère, une sœur, un ou une amie. Amis, frères, sœurs, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce, que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.